franceinter.fr.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. Les migrants s'y engouffrent chaque jour par milliers. La frontière entre la Serbie et la Hongrie est devenue, on peut le dire, la porte d'entrée de l'Union européenne. La Hongrie vient d'ériger une frise de barbelés sur 175 km à la frontière pour les contenir ou du moins les freiner. Paris, Berlin et Londres demandent une réunion au plus vite d'ici 15 jours pour trouver une solution d'accueil et de répartition. La date de cette réunion vient d'être fixée au 14 septembre. À La Rochelle, aux universités d'été du Parti Socialiste, Manuel Valls a plaidé en faveur du droit d'asile des réfugiés. Il faut, dit-il, les accueillir. Une antonomase, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien vous le saurez en écoutant dans un instant Jean-Luc Mélenchon. C'était en clôture du remue-ménage du Parti de gauche à Toulouse. Il va quitter son poste de directeur général d'Alcatel-Lucent avec plus de 13 millions d'euros de primes en actions. La rémunération de départ de Michel Combes fait polémique. Désormais, chaque dimanche soir dans ce journal, nous braquerons les feux de l'actualité sur la semaine à venir. Demain, incontournable, la semaine de rentrée scolaire, avec d'abord la rentrée des enseignants. Le temps, les températures estivales ont fondu au soleil. La moitié nord va perdre une bonne douzaine de degrés en 48 heures et les orages arrivent. Pas de changement en revanche sur la moitié sud. À la fin de cette édition, les résultats sportifs du week-end. Journal des sports avec Philippe Collin et Michel Gourdin. Au sommaire, football, la Ligue 1, quatrième journée, suite et fin. Saint-Etienne a battu Bastia 2-1. Victoire de Bordeaux sur Nantes 2-0. À 21h, Monaco accueillera le PSG. Et puis, dans ce journal des sports, le bilan français des mondiaux d'athlétisme et de judo, 2 médailles de bronze en athlétisme et 6 médailles dont 2 en or en judo.
France Inter.
La Hongrie est confrontée à un afflux massif de migrants sur son territoire, entre 2000 et 3000 chaque jour, et parmi eux un grand nombre de Syriens, d'Irakiens ou encore d'Afghans fuyant la guerre. Budapest tente d'assécher le flux avec la construction d'une clôture de barbelés à sa frontière avec la Serbie. Les autorités maillardes vont même plus loin. Elles ont décidé de contrôler et d'empêcher tout déplacement en train des migrants, tous ceux en tout cas qui n'auraient pas de papiers en règle. Résultat, ils sont désormais des centaines à s'agglutiner aux abords des gares. C'est le cas devant la gare de Budapest, Jérôme Jadot.
Sur le parvis de la majestueuse gare Keleti, 2 à 300 migrants applaudissent l'Allemagne et sifflent la Hongrie. Face à eux, les forces de l'ordre bloquent l'entrée principale. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous laissent pas monter dans les trains? Pour donner de l'argent et acheter mon ticket, j'étais le bienvenu. Mais quand je me suis présenté pour prendre le train, la police m'a dit non, vous venez de Syrie, d'Irak. Allez-vous-en, pourquoi ? Depuis quelques jours, la police ne laisse en effet monter dans les trains pour Vienne ou Munich que ceux qui ont un visa Schengen. C'est la règle européenne qui était peu appliquée jusqu'alors. Jalil ne comprend pas. Si la police ne nous laisse pas monter dans les trains, nous allons finir par devoir monter dans des camions. C'est dangereux, mais je vais peut-être devoir prendre ce risque. En quelques jours, le nombre de migrants est passé ici de 500 à plus de 1500 pour 2 douches et 5 robinets. Les familles s'entassent sur des cartons dans les couloirs du métro, uniquement soutenu par une vingtaine de bénévoles qui leur apportent nourriture et aide médicale. Yudit Sikra les coordonne. L'État ferme un œil et garde l'autre ouvert. Ils nous laissent faire le travail humanitaire à leur place. Et puis, ils vont bientôt nettoyer et arrêter tout ça avec de la répression et des règles dures. Autrement dit, ajoute Yudit Sikra, créer le problème pour mieux montrer qu'on peut le régler, le gouvernement Orban doit faire voter la semaine qui vient un arsenal anti-immigration déjà très décrié.
Un mur de barbelés le long de la frontière hongroise avec la Serbie, pas sûr que cela suffise. Alors on va garder le même scénario mais en se plaçant cette fois côté serbe. Et là, la vision est bien différente. Ces migrants qui traversent le pays deviennent pour certains une aubaine, un moyen d'arrondir ses fins de mois car il faut bien vivre. À Subotica, dans le nord de la Serbie, près de la frontière, Laurent Rouy a rencontré un chauffeur de taxi. Cet homme de 52 ans lui a décrit l'envers du décor. Il y a un camp sauvage de réfugiés, de migrants, à quelques kilomètres seulement de la ville. Et parfois, eh bien, le taxi joue les passeurs.
Ça fait au moins 5 ans qu'il y a des migrants ici. Des fois plus, des fois moins. Souvent, ils arrivent par vagues. Ces jours-ci, il y a eu cette arrivée massive de migrants. Il y a eu beaucoup de bus spécialement affrétés à la gare. Les migrants prennent le taxi pour aller à la gare ou en ville, pour acheter des vêtements ou de la nourriture. Nous, les taxis, on a beaucoup de problèmes parce que les migrants ont le droit de prendre les transports en commun. Mais la police n'est pas claire avec les taxis et on ne sait pas si on a le droit de les conduire ou pas. Sur les longs trajets, je cours le risque que la police me confisque mon véhicule. Les migrants me disent dans les discussions qu'ils sont très contents de leur contact avec la population, comme avec la police en Serbie. Dans les autres pays, ils ont beaucoup de problèmes. En Macédoine, en Grèce et surtout en Bulgarie. Avec les migrants, on gagne plus d'argent. On n'a pas tellement de prix spéciaux plus élevés pour eux. Oui, oui. Il y a un petit supplément quand même, mais c'est très faible. À la fin, ça fait plus de travail, plus de revenus. C'est la même chose pour les commerçants, les transports publics, les fast-foods. En gros, les migrants multiplient notre revenu par deux.
En Hongrie, la situation risque de devenir vite intenable. Et puis il y a les bateaux qui chavirent ou qui coulent en Méditerranée. Et Calais qui devient pour ceux qui ont réussi à survivre le cul-de-sac de l'aventure. Berlin, Paris et Londres organiseront donc une réunion d'urgence de l'Union européenne le 14 septembre pour trouver une solution, trouver un accord pour répartir les migrants entre les différents pays de l'Union européenne. Il faut les accueillir, a déclaré Manuel Valls. C'était en fin de matinée dans son discours de clôture à l'université du PS à La Rochelle.
Notre devoir, oui. C'est de trouver des réponses durables, fondées sur des valeurs et des principes, humanité, responsabilité, fermeté. Humanité, parce que les migrants, ces hommes, ces femmes, ces êtres humains, doivent être traités dignement, abrités, soignés. Responsabilité, parce que nous sommes viscéralement attachés au droit d'asile. Ceux qui fuient les guerres, les persécutions, la torture, les dictatures doivent être accueillis. C'est un principe universel qui fonde l'humanité.
Propos recueillis à La Rochelle par l'un de nos envoyés spéciaux, Cyril Graziani. On reparlera du PS et de La Rochelle dans un instant, mais sur ce dossier migrant, sachez que demain, Manuel Valls se rendra à Calais avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Et puis à propos toujours des migrants, il y a aussi des réactions à droite. Immigration, accueil des migrants, stop, on frise l'overdose, répond Brice Hortefeux. Le député européen Les Républicains affirme que le gouvernement et les socialistes ont perdu tout contact avec la réalité.
Une fois de plus, le gouvernement et la majorité socialiste sont dans le déni des réalités. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que notre pays est à saturation de sa capacité d'intégration et que nous devons tous en avoir conscience. La situation des autres pays, et notamment de l'Allemagne, est totalement différente. Et vouloir faire une comparaison pure et simple, c'est être certain de se tromper. Pour une raison claire, c'est que la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui a le plus accueilli au cours des dernières décennies de populations étrangères. Donc notre capacité d'intégration est à saturation. Il appartient à l'opposition d'être à la fois ferme et responsable sur un sujet aussi essentiel qu'est celui de l'immigration et de l'intégration.
Inter soir. Philippe Habitboul.
Et comme promis, on va maintenant revenir sur la fin des premières universités d'été qui marquent la rentrée politique. Les socialistes étaient donc ce week-end à La Rochelle avec bien en tête les déclarations d'Emmanuel Macron sur la nécessité de réformer le droit du travail. Le ministre de l'économie était jeudi devant le MEDEF, devant un parterre de patrons littéralement conquis. Depuis, Manuel Valls a recadré les débats en déclarant qu'il n'était pas question de toucher aux 35 heures ou au droit du travail, mais de donner plutôt plus de place aux accords d'entreprise. Cadrage donc terminé, le Premier ministre s'est alors attelé à une toute autre tâche, ressouder les militants pour qu'ils soutiennent fermement les réformes entreprises par le gouvernement. Et pour convaincre, Manuel Valls, au sens propre comme au sens figuré, n'a pas hésité à mouiller la chemise, Laurence Perron.
Tous derrière et lui devant. Manuel Valls a sifflé la fin de la récré. Ça vaut pour Emmanuel Macron, le débat sur la réduction du temps de travail est clos. Ça vaut pour ceux qui frondent et ceux qui huent. À droite, on siffle, à gauche, on applaudit, a enfoncé le Premier ministre, face notamment aux jeunes socialistes qui l'avaient malmené hier soir. Ce qui n'a pas désarmé pourtant les sifflets lorsqu'il salue la loi Macron, ouvant la réforme du Code du travail. Cassant, il intime le silence. On ne siffle pas Robert Badinter, qui effectivement vient de préconiser cette refonte. Il est ovationné en revanche lorsqu'il parle d'humanité, de responsabilité et de fermeté sur la question des réfugiés. Ses charges contre la droite incohérente qui donne des leçons et court après le FN emporte une assistance qui n'attend que cela. Être galvanisé, se rassembler en vue des régionales, loin d'être acquise. En réponse sans doute à Christiane Taubira qui disait hier que la gauche est infidèle à elle-même lorsqu'elle n'est pas du côté des plus vulnérables. Il conclut, la gauche est grande, la gauche est victorieuse lorsqu'elle sort de son nombrilisme pour s'adresser à tous, sans petit calcul, sans sectarisme. À La Rochelle, Laurence Perron, France Inter.
L'université d'été du parti de gauche s'appelle, elle, le remue-ménage. Aujourd'hui, c'était plus vrai que jamais. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon se sont retrouvés ce week-end à Toulouse. Le cofondateur du parti de gauche a appelé à élargir le front de gauche aux frondeurs du PS et aux écologistes. Il faut, dit-il, qu'il se mélenchonise pour éviter à la gauche de tomber dans la macronite, a déclaré Jean-Luc Mélenchon.
La mélenchonisation, c'est une antonomase en littérature. Je n'ai qu'une chose à dire sur le sujet. Tout organisme de gauche atteint de macronite est promis à la mélenchonisation qui a la réaction de l'organisme sain pour conserver son identité. Tout à l'heure, on a dit que les députés socialistes, les députés du PS, finiraient à Pôle emploi. S'ils y vont, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à temps à ceux qui s'y trouvaient déjà. Face au voile qui pèse sur le futur, nous prenons le parti des pauvres, nous prenons le parti des exploités, nous prenons le parti des humiliés, pas seulement parce que nous avons un cœur d'être humain, mais parce que c'est la raison qui nous conduit à choisir le camp de la pauvreté contre le camp des égoïsmes et des intérêts particuliers. Oui, j'ai dit l'ordre médiatique règne. Relisez 1984 pour ceux qui l'ont pas lu. C'était l'époque où le ministère de la guerre s'appelait le ministère de l'amour et où le ministère du chômage s'appelle le ministère du travail, comme aujourd'hui. Le vol des mots, leur falsification, c'est une manière d'empêcher de penser, mes amis.
Propos recueillis par Stéphane Iglesias. La fait des ordres. Au moment où l'équipementier télécom multiplie les suppressions de postes depuis 2 ans, Michel Combes, le directeur général d'Alcatel-Lucent, s'apprête à quitter son poste et il ne part pas les mains vides. Il pourrait recevoir plus de 13 millions d'euros de primes, Laurent Kramer.
Et le montant de la somme fait bondir les syndicats du groupe qui rappellent la violence du plan social ces 2 dernières années chez Alcatel-Lucent. 10 000 postes supprimés dans le monde, dont 700 en France. Au mois de mai dernier, Michel Combes lui-même avait publiquement déclaré qu'il ne souhaitait pas, dans ces conditions, toucher d'indemnité de départ. Aujourd'hui démissionnaire, pour prendre la direction de Numéricable, SFR, Bernard Combes touchera tout de même une sorte de bonus, 4,5 millions d'euros de clause de non-concurrence, une retraite chapeau de 50 000 euros par an, des stock options et enfin 2 600 000 actions payables d'ici 2018 pour une valeur de 8 millions d'euros au cours actuel d'Alcatel. Une addition totale, vous le disiez, de près de 13 millions d'euros. Pourtant, ces actions, Michel Combes n'aurait techniquement pas dû pouvoir les toucher. Démissionnaire après 2 années seulement passées à la tête d'Alcatel. Mais la règle a été changée et validée fin juillet par le conseil d'administration. Du côté du groupe Alcatel, Alcatel-Lucent, on défend le bilan du directeur général sur le départ. L'équipementier rappelle dans un communiqué que Bernard Combes n'aurait pas dû quitter dans ces conditions, mais qu'il a multiplié par 6 la valeur de l'entreprise et a permis, je cite, de sauver Alcatel de la faillite.
Merci Laurent Kramer. La semaine dernière, France Inter faisait sa rentrée. Cette semaine, eh bien, ce sera la rentrée des classes. Demain, les enseignants. Mardi, les élèves. La rentrée sera demain au cœur de l'actualité. 860 000 enseignants vont prendre ou reprendre le chemin de l'école, car parmi eux, il y a de jeunes profs qui débutent dans le métier. Alors, quels conseils leur donner ? Julie Van Rekem est elle-même professeure d'histoire et de géographie dans un collège de Garges-lès-Gonesse, en région parisienne. Elle est aussi l'auteur du livre « Prof jusqu'au bout des ongles ». Elle rappelle dans son livre qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle, pas de prof idéal et qu'il ne faut pas suivre certains conseils.
Moi, j'étais arrivée la première année en me disant « je vais leur servir un grand discours comme quoi je suis là pour eux, je vais les faire progresser, etc. » Je ne sais même pas si j'y croyais moi-même, mais j'étais persuadée que c'était ça, être un bon prof. Et finalement, bon ben, ça s'est très très mal passé. Évidemment, mes élèves ne m'ont pas cru et puis surtout ne m'ont pas comprise parce que j'avais un langage qui était trop compliqué. J'étais beaucoup trop complexe dans mes formulations. Donc voilà, le genre de choses à pas faire. Ou alors, ce genre de conseil, si vous êtes notamment une femme et que vous êtes un peu jeune, vous avez 24 ans au début du métier, faites-vous un chignon, mettez des petites lunettes et soyez habillée. Est très strict. Alors, ça ne leurrera que vous, ça ne leurrera jamais les élèves. Un élève n'est pas dupe de ce genre de choses. Il vous verra, il saura que dans vos gestes, dans votre comportement, vous avez 3 ou 4 ans de plus que sa grande sœur, c'est tout.
Comme ça, c'est dit, le naturel, il n'y a que ça de vrai. Propos recueillis par Sonia Bourane. Demain, à 8h20, Najat Vallaud-Belkacem commentera la rentrée sur France Inter. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche sera l'invité de Patrick Cohen. Notez aussi que demain soir à 19h20, le téléphone sonne de Nicolas Demorand sera aussi aussi consacré à la rentrée. Enfin, mercredi, premier conseil des ministres de cette rentrée. On connaîtra d'ici là le nom du successeur de François Rebsamen au ministère du Travail. François Rebsamen, le nouveau maire de Dijon. Rock en scène, dernier concert ce soir pour cette 13e édition. En clôture, au domaine national de Saint-Cloud, l'électro-électrique, le son puissant des Chemical Brothers et la pop ensoleillée de Tame Impala. Isabelle Pasquier, c'est vraiment du lourd.
Oui, cette dernière soirée de rock en scène commence en mode sexy funk avec Jungle et ses irrésistibles chorégraphies. Ensuite, on pourra se lâcher et planer sur les envolées psychédéliques des Australiens de Tame Impala. Changement radical d'univers esthétique avec Mark Langan, ex-chanteur de Queens of the Stone Age et proche de Kurt Cobain, une voix des profondeurs des plus fascinantes. À la tombée de la nuit, Rock en scène va retrouver de la légèreté avec les Anglais d'Alger, à déguster allongé sur l'herbe bien brûlée du domaine de Saint-Cloud. Enfin, du gros son pour traverser la nuit avec l'électro-rock des Chemical Brothers. Les statues du parc de Saint-Cloud vont avoir envie de prendre cher pour se déhancher sur le dance floor XXL de la pelouse. Pelouse qui a été foulée par 120 000 paires de tongs et de baskets. À Rock en scène, avec Pierre Quintard qui a pris de beaucoup de soleil pour passer l'hiver, du coup de soleil sous les décibels, Isabelle Pasquier, France Inter.
C'est dommage, ça se voit pas à la radio. Merci Isabelle. Petite révolution pour presque 4 millions de franciliens qui utilisent les transports en commun. Le Pass Navigo, passe à tarif unique, valide à compter de mardi. Allez, on va s'intéresser maintenant au trafic routier, tout de suite la circulation. Le point route du dimanche soir, Nicolas Olivier, dernier retour avant la rentrée des classes. Journée classée orange et il y a beaucoup de monde ce soir aux abords des grandes villes.
Oui, 230 km de bouchons cumulés en ce moment sur les principaux axes et c'est pour l'instant le maximum du jour. On circule toujours, comme d'habitude, en accordéon sur l'autoroute A7 entre Orange et Valence, 1h35 au lieu de 53 minutes en temps normal. Parmi les autres secteurs délicats, l'A8 entre Antibes et Nice, une cinquantaine de minutes de perdu, mais là c'est à cause d'un accident. Sur l'A10, il y a un point noir à hauteur d'Orléans en direction de Paris, une bonne demi-heure d'attente. En région parisienne, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a assez peu de difficultés ce soir. Et puis une info sur le réseau secondaire en Loire-Atlantique, la route entre Chalon et Nantes, la D117, est coupée dans les deux sens après un accident à hauteur de Machecou.
Route avec GMF, l'assurance qui récompense les petits rouleurs grâce à des tarifs ajustés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gmf.fr.
À suivre le journal des sports, mais d'abord la météo avec Jean-Michel Golinski. Il a fait beau, mais demain, cela va changer.
Le ciel parfois chaotique de la fin de la journée sur les Charentes, les Pays de la Loire et de la Bretagne à la Belgique s'accompagne localement d'averses orageuses. Elles seront quand même plus violentes ce soir et la nuit prochaine au nord de la Somme avec probablement de la grêle et de fortes bourrasques. Le tout sera suivi demain d'une très nette dégradation des conditions sur une large moitié ouest. Soleil et chaleur du week-end seront remplacés par un temps instable et beaucoup plus frais, avec le matin des averses et des orages entre l'océan, la frontière belge, le bassin parisien, le centre, le Limousin et le sud-ouest. En journée, ce temps médiocre va progresser vers la Bourgogne, l'Auvergne et les Pyrénées orientales. Ces mauvaises conditions vont s'accompagner de températures en chute libre, jusqu'à 12 degrés de moins par rapport à aujourd'hui du Sud-Charente à l'Aquitaine, 6 à 8 degrés sur les autres régions. Notez que plus à l'est, de l'Alsace-Lorraine à Rhône-Alpes et de la Provence à la Corse, vous allez conserver pratiquement les mêmes conditions qu'aujourd'hui.